1783. Coup de théâtre. Deux peintres, deux femmes, sont élus à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Élisabeth Vigée-Lebrun et Adélaïde Labillière. Elles ne sont pas les seules à avoir un très grand talent et à être reconnues comme des artistes majeures. Dans la période 1780-1830, qui fait l'objet de l'exposition du musée du Luxembourg, nous pourrions citer Marguerite Gérard, Marie-Adélaïde Durieux, Hortense Audebourg-Lescot, Isabelle Pinson, Louise-Joséphine Sarrazin de Belmont et bien d'autres encore. Toutes ces artistes furent invisibilisées par l'histoire de l'art. Ce phénomène n'a pas seulement concerné les peintres. Dans le domaine de la musique, évoquons Hélène de Mongeroux, dont vous entendez maintenant un extrait de son étude 111 en sol mineur. Revenons au musée du Luxembourg, qui réunit aujourd'hui l'œuvre de 35 artistes dans une exposition intitulée « Peintre femme, naissance d'un combat ». De quel combat s'agit-il ? Est-il encore d'actualité ? Partons à leur rencontre. Coup de projecteur sur la période 1780-1830. Fin de l'Ancien Régime, fin du siècle des Lumières, Révolution, République, Empire, Restauration, Révolution des Trois Glorieuses, les régimes se succèdent, non sans violentes secousses. Les mutations politiques et sociales sont importantes. Le marché de l'art en sort lui aussi profondément métamorphosé. Arrêtons-nous un instant en l'an 1783. Nous sommes au salon devant un portrait de la reine Marie-Antoinette. Marie-Antoinette dite à la créole. 89 cm de haut sur 72 cm de large. La reine y est montrée dans son intimité, en chemise, en gaule, bref, en robe de mousseline. En mousseline ? Cette matière réservée au-dessous ? Scandale ! Le tableau est rapidement décroché pour être remplacé par le portrait de Marie-Antoinette dit à la rose, aujourd'hui conservé au château de Versailles. Cette fois, la reine y est vêtue d'une robe de cour en soie bleu-gris. Voilà une toilette bien convenable. En cette année 1783, Élisabeth Vigée-Lebrun n'en est pas à sa première audace. En effet, n'a-t-elle pas envoyé à l'Académie de peinture, pour sa réception en tant que portraitiste, une peinture d'histoire ? C'était déjà bien osé. Le scandale du salon provoqué par le portrait de Marie-Antoinette à la robe de Gaulle ne resta pas franco-français. Il s'ébruita au-delà des frontières. La renommée de l'artiste s'en trouva grandie. Ce type de représentation fut considéré comme très novateur. Et l'artiste reçut de nombreuses commandes. Petit aparté mode, la chemise en mousseline ne tarda pas à s'imposer également. Revenons au scandale, ou plutôt à ces scandales. Étaient-ils des stratégies calculées et préméditées de la part de l'artiste ? Tout le laisse à croire. 1789, c'est l'exil. Élisabeth Vigée-Lebrun mena alors une carrière brillante auprès des cours européennes, en Italie, en Russie. Ses talents s'exprimèrent dans sa maîtrise du rendu des carnations, des étoffes, des fleurs, des matières, dans sa subtilité à traiter les ombres et les lumières, dans sa capacité à traduire l'intime. Sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Quelques-uns lui ont cependant apporté leur soutien. Le poète Lebrun Pindar est l'un d'entre eux. Dans un extrait de souvenirs, il écrit « Cher Lebrun, la gloire a ses orages, l'envie est là qui guette le talent. Un pinceau mâle anime tes portraits. Non, tu n'es plus femme que l'on renomme. Mieux que nos voix te déclarent grand homme. » Élisabeth Vigée-Lebrun, ce grand homme, vécut 86 ans. Sur sa tombe, elle demanda que soit inscrite l'épitaphe « Ici, enfin, je repose ». Ces quelques mots en disent long sur son parcours, semé d'embûches. Mais son tempérament, son effronterie, sa pétulance, sa grâce lui ont permis d'aller au-delà des enjeux politiques, des fanatismes, des calomnies. Un petit mot maintenant pour la célèbre portraitiste parisienne Adélaïde Labille-Guillard, souvent considérée comme la rivale d'Élisabeth Vigée-Lebrun. L'année 1883 fut également pour elle une année de scandale et l'année de son élection à l'Académie de peinture. En effet, accusée d'être aidée, très très aidée dans la réalisation de ses tableaux par son amant François-André Vincent, qui deviendra plus tard son époux, on voulut lui refuser son accession à l'Académie. Qu'à cela ne tienne, elle proposa de faire le portrait d'une dizaine d'académiciens pour leur prouver son talent. Stratégie gagnante. Son morceau de réception, le portrait du sculpteur Augustin Pajot, modelant le buste de son maître Lemoine. Évident hommage à l'émulation entre maître et élève. Elle obtint l'agrément avec 29 votes sur 36. Sa revanche prise, son combat ne s'arrêta pas là. En effet, malgré cette victoire, l'installation au Louvre lui resta interdite. Sous prétexte qu'elle tient école de son sexe, c'est-à-dire qu'elle enseigne la peinture aux femmes, et qu'il y aurait beaucoup d'inconvénients pour les mœurs et la décence du palais. Elle s'installa donc non loin de là, rue de Richelieu, ouvrit une académie pour les femmes, s'entoura de 9 élèves. Les plus doués, Marie-Gabrielle Capet et Marie-Gabrielle Carreau de Rosemont, qui figurent toutes deux sur son autoportrait de 1785, conservé par le Metropolitan Museum of Art. Adélaïde Labille-Guillard défendit avec ardeur l'idée d'une réforme de l'Académie en faveur de la formation féminine, de l'abolition du numerus clausus, qui réservait seulement 4 places aux femmes, et du droit de voter et d'enseigner des académiciennes. Adélaïde Labille-Guillard vécut une histoire hors du commun. Elle parvint à s'imposer malgré son statut de femme et sa condition sociale. Elle produisit un corpus de portraits néoclassiques où les sujets sont traités de façon directe et magnifiés par ses talents de coloriste. Pourtant, jusqu'à ce jour, elle n'a jamais fait l'objet d'une véritable monographie. Laissons-nous guider par cet extrait de l'étude 62 en mi bémol majeur de la compositrice Hélène de Mongeroux. Entrons plus avant dans la période et dans l'exposition. Sur notre gauche, le portrait de Marie-Antoinette à la créole par Élisabeth Vigée-Lebrun que nous avons évoqué. Un peu plus loin, sur le même mur, l'œuvre de Marguerite Gérard, intitulée « L'élève intéressante », capte notre regard. Il s'agit d'une huile sur toile, datée de 1786 environ. Elle mesure 65 cm de haut sur 54 de large. Ce format portrait est proche du carré. Dans un intérieur sombre, figuré principalement dans un camailleux de gris, un grand désordre règne. Des objets épars jonchent le sol. Un véritable capharnaüm d'objets précieux et d'œuvres d'art prend place. Dans le coin inférieur gauche du tableau, sur les plis soyeux du tapis, la surface polie d'une sphère métallique très lisse réfléchit nettement une fenêtre et l'autre partie de l'atelier, en tout petit format, comme en miniature. Nous y discernons une femme assise à son chevalet, en train de peindre, sous le regard d'un homme qui contemple son travail. Une autre femme, assise à la droite de l'artiste, assiste à la scène. Cette boule métallique, qui fait penser à une boule de cristal par sa brillance, pourrait figurer Marguerite Gérard au travail, dans son atelier, entourée de sa sœur Marie-Anne et de son beau-frère et maître Jean-Honoré Fragonard. L'effet illusionniste est saisissant. La maîtrise confondante avec laquelle sont traitées cette sphère, ses reflets, la lumière de la fenêtre, n'a rien à envier à la virtuosité des peintres du Nord du XVIIe siècle. Elle pourrait nous faire songer notamment à la boule de verre suspendue dans l'œuvre de Vermeer, intitulée « L'allégorie de la foi », conservée au Metropolitan Museum of Art. Assurément, Marguerite Gérard emprunte aux Hollandais la manière lisse qui permet d'effacer toutes les traces de pinceau de son tableau. Ici, cette sphère vient écraser un dessin froissé. Le contraste du poli du métal et des plis du papier vient encore souligner la virtuosité technique de l'artiste qui nous donne à voir un véritable trompe-l'œil. Poursuivons. Cette sphère, ce dessin, viennent comme prendre appui sur l'un des trois pieds d'une console haute. Sur un bois sombre et laqué, de l'acajou peut-être, des décors floraux en bronze doré se détachent. Sur cette console au plateau rond, un tissu d'un vif rouge vermillon, aux bordures brodées d'or, semble avoir été jeté négligemment. Sa couleur éclate au milieu de ce décor quasiment monochrome. Sur cette console d'acajou, sur ce riche textile rouge, une sculpture en plâtre figure deux amours, deux poutis. Ils sont debout, ils sont ailés, ils se chamaillent. Se disputent-ils un cœur? Est-ce la représentation de l'amour et de l'amitié? Sculptés par les frères Nicolas et Joseph Broche, ils sont célèbres à l'époque. Ils émergent de la pénombre grâce à leurs tons ivoires. La lumière joue sur leur forme potelée. Faut-il y voir une allusion à la connivence qui existe dans la relation entre Marguerite Gérard et Fragonard? Sur la tête de celui de gauche est négligemment posé un grand chapeau noir, féminin, à bord large. Nous devinons à peine un discret ruban rose nacré, noué avec art et délicatesse. Trois plumes immenses, vaporeuses, aux teintes grisées, y sont glissées. Sur les murs du fond d'un gris anthracite, des tableaux prennent place. Il est quasiment impossible d'en discerner le sujet. Nous sommes toujours dans ces nuances allant du gris presque noir au gris clair. Même le miroir ovale, cerné d'un cadre de bois doré, qui domine le centre du tableau, se distingue à peine. Dans la partie supérieure droite de la toile, un format portrait occupe presque tout l'espace. Situé dans l'ombre, son sujet reste énigmatique. Ce cadre surplombe le plateau de marbre gris d'une console rectangulaire cette fois. Plusieurs petits objets semblent avoir été posés là aussi au gré du hasard. De sculptures polychromes de petite taille. Une tasse en porcelaine blanche d'où émergent quelques fleurs d'un rose délicat. Un grand dessin légèrement déroulé. À la lisière droite du tableau, à mi-hauteur, un autre plâtre est placé là, de petite taille. Nous discernons bien les jambes de cet homme nu, debout. En revanche, le reste de son corps disparaît dans l'ombre de la pièce. Au sein de ce décor où tout nous évoque l'atelier, se détache une jeune femme assise sur le bord d'un tabouret rectangulaire sur lequel s'appuie nonchalamment un carton à dessin bien rempli. La jeune femme, de profil, pleine d'élégance et de douceur, occupe les deux tiers de l'espace environ. Son visage est tourné vers le centre du tableau. Mais avant d'entrer plus avant dans sa description, attardons-nous un instant sur le coin inférieur droit de l'œuvre. Là, une scène pleine de vie capte notre attention. En effet, sur la partie de l'assise du tabouret qui n'est pas occupée par l'élève, sur ce velours vert émeraude, un chien, allongé, blanc, aux oreilles marron, observe un chat, blanc lui aussi, aux poils longs et frisés, qui, allongé sur le dos, semble vouloir se hisser sur ce tabouret en prenant appui sur les pattes avant. C'est acrobatique. La position de la jeune femme sur le rebord du tabouret, avec le chien derrière elle, est très proche de celle donnée par Fragonard à son personnage dans la lettre d'amour, conservée au Metropolitan Museum. La complicité et la connivence étaient telles entre le maître et l'artiste que Fragonard prit Marguerite Gérard comme collaboratrice. Elle apporta donc sa contribution dans les tableaux qui étaient commandés à Fragonard. C'était la coutume dans l'atelier des peintres. Ici, inversement, il n'est pas impossible que Fragonard ait été l'auteur du chat et du chien se chamaillant. Cette scène pleine de vie fait sourire. Le jeu de ces animaux participe au désordre ambiant de la pièce. Il participe de la composition. Ce désordre contraste avec l'attitude posée, concentrée de la jeune personne au teint pâle. Vêtue d'une robe de satin ivoire, elle semble capter toute la lumière de la pièce. Ses traits sont lisses, sa peau fine. Dans un chignon élaboré, des tresses de cheveux blonds vénitiens et un ruban de satin légèrement rosé se mêlent. Une mèche bouclée semble s'être échappée et vient animer sa nuque dénudée. Le satin de sa robe est traité avec délicatesse. La lumière joue sur les plis et restitue avec virtuosité la souplesse et la brillance de l'étoffe. Cette élégante jeune femme tient entre ses mains un tableau de bonne taille. Il mesure peut-être 80 cm de haut. Ses mains, d'une grande finesse, en tiennent délicatement le coin supérieur droit et le coin inférieur gauche. La partie basse du cadre repose sur ses genoux. L'œuvre est complètement accessible à notre vue. C'est un peu comme si l'élève nous invitait à la regarder avec elle. L'instant qui est figuré est celui de l'observation. Que voyons-nous? La gravure de l'une des célèbres compositions de Jean-Honoré Fragonard, La Fontaine d'Amour, aujourd'hui conservée au Getty Museum à Los Angeles. La jeune femme porte un regard attentif à cette œuvre. Elle en étudie sans doute le trait, la composition, la maîtrise technique. En même temps, ce tableau est légèrement incliné vers l'avant, tout comme le buste de la figure principale. Et cela crée un jeu de diagonales parallèles au centre du tableau. Cela donne du dynamisme à la scène. Va-t-elle se lever? Va-t-elle se tourner vers nous pour nous donner son avis? L'artiste Marguerite Gérard, comme nous l'avons évoqué, collabora avec Jean-Honoré Fragonard dans les années 1780. Il était son beau-frère, son maître, son mentor. Cette œuvre lui rend un vibrant hommage. Sommes-nous devant un autoportrait? Non, puisque le modèle est connu, il s'agit de Louis Chéreau, membre d'une famille de graveurs et d'éditeurs d'estampes. Est-ce un portrait voilé? Cette œuvre au titre évocateur, prédestinée, l'élève intéressante, fut sans doute l'une des premières peintures que l'artiste présenta sous son seul nom. La scène représentée sur la sphère en métal poli qui montre cette artiste active, cette artiste qui prend son envol après avoir été formée dans les ateliers familiaux, nous confirme dans cette idée de portrait voilé. La toile est un condensé de sa manière, de son talent, de sa virtuosité, de son intimité. La composition sophistiquée et raffinée de cette huile sur toile, son exécution délicate, le clair-obscur maîtrisé, font de cette scène de genre un chef-d'œuvre. Actuellement exposé au musée du Luxembourg, ce tableau fait partie des collections du musée du Louvre depuis peu, depuis décembre 2019. Marguerite Gérard est donc désormais représentée au Louvre par une œuvre majeure. Et le Louvre conforte ainsi la présence dans ses collections des artistes, femmes, de la fin du XVIIIe. Marguerite Gérard eut une clientèle importante, resta indépendante et fit fortune. Continuons notre déambulation. Je vous propose de nous plonger dans une autre success story. Elle va nous conduire à Rome et dans la seconde partie de l'exposition qui est consacrée à la formation des artistes. Marchons sur les pas d'Hortense Audebourg-Lescot. Petit rappel, le Grand Prix de Rome étant fermé aux artistes femmes, le voyage en Italie n'est pas aisé. Pourtant, certaines parviennent à faire le grand tour. Ce voyage a des buts multiples. Se former au modèle antique, mais également intégrer l'importante et cosmopolite communauté d'artistes sur place. Voici comment cela s'est passé pour Hortense Audebourg-Lescot. Son maître, le peintre Guillaume Guillon Lethière, dirigea l'Académie de France à Rome entre 1807 et 1816. Il l'invita alors à résider à la Villa Médicis. Sa présence fit scandale. Malgré les rappels à l'ordre qui lui ont été faits par Dominique Vivant-Denon, Guillaume Guillon Lethière y imposa la présence d'Hortense Audebourg-Lescot selon quelques aménagements eu égard à son sexe. Elle y séjourna 8 ans. Elle noua des amitiés notamment avec les peintres Ingres, Heim, le sculpteur David d'Angers, l'archéologue Telman Franciscus Suisse et l'architecte Pierre Audebourg, qu'elle épousa plus tard, en 1820. Son cas n'est pas unique. Arrêtons-nous devant une de ses toiles, intitulée « Le jeu de la main chaude », datée de 1812. Mesurant 1 mètre de large sur 75 cm de haut. Son format paysage nous invite à plonger dans la lumière chaude de l'Italie. 3 arcades en pierre marquent les plans principaux de la composition. Ces arcades sont massives, hautes, étroites, elles sortent du champ. Nous ne voyons que le départ de leurs arcs. Tout près de nous, à l'ombre de ces arcades, une scène pittoresque du petit peuple napolitain prend place. Nous sommes immergés dans la pénombre d'une galerie couverte. Un groupe de personnages, figurés dans des teintes chaudes et chatoyantes, s'y livre à un jeu. Celui de la main chaude. Pratiqué depuis l'Antiquité sous le nom de jeu de soufflet, il a traversé l'histoire. Diderot en parle dans ses lettres à Sophie Volant. Ce jeu anime certaines toiles de Fragonard. Maupassant l'évoque dans son conte Chalie. Tout le monde connaissait donc ce jeu populaire basé sur la reconnaissance sensorielle. Je vous propose d'en découvrir ses règles en observant l'œuvre d'Hortense de Burlesco. À gauche de la toile, un vieil homme, vêtu de blanc, est assis sur une chaise au dossier rouge. Le dossier de la chaise est droit, encadré d'un liseré de bois doré. Aux angles, en partie haute, deux sculptures en volute, elles aussi en bois doré, contrastent par leur souplesse avec l'impression de rigidité que donne le reste de l'assise. L'homme a une calvitie naissante qui laisse place à des cheveux blancs mi-longs sur la partie arrière de son crâne. Il a le buste légèrement incliné vers l'avant. Il fait avec sa main droite un geste protecteur à l'égard de la jeune femme agenouillée devant lui. Il lui porte un regard plein de tendresse, tout comme la femme âgée située à sa gauche. On pourrait penser que ce sont les parents de la jeune femme. Un prêtre, vêtu de noir et portant tricorne, jette également un œil bienveillant sur cette scène. Le buste et le bras gauche de la jeune femme qui fait face au vieillard reposent donc sur les genoux de cet homme assis. Son corset, dans les teintes de rose, à demi dénoué, et le décolleté de sa chemise blanche nous laisse voir le haut de son dos. Sa jupe longue, dans des tons dorés, est retenue à la taille par un tissu blanc noué qui tombe jusqu'au sol, dans un élégant drapé. Ses cheveux bruns sont relevés dans un chignon serré. Il y a une grande liberté dans le geste, dans l'attitude de la jeune femme. L'artiste capte un instant précis du jeu, celui où elle se retourne. Elle lance un regard en arrière. Elle lance également son bras droit tendu. Il est légèrement incliné vers le haut. Il forme une diagonale dynamique par rapport à l'horizontalité de son buste. De son index, la jeune femme désigne l'un des 8 personnages du groupe situé derrière elle. Elle désigne le seul homme de cet attroupement qui est organisé suivant une diagonale qui va du centre du tableau vers le coin inférieur droit. Les personnages, très proches les uns des autres, ont des attitudes variées. L'une d'entre eux, celle qui est située la plus à droite, porte un enfant nu dans ses bras. La plupart des protagonistes sont figurés debout. Mais les deux femmes qui sont le plus près de nous sont-elles agenouillées? Les vêtements, les coiffes, les couleurs, les attitudes, les expressions sont variées. Cela donne beaucoup de vie à cette scène et nous invite, nous spectateurs, à prendre part à ce jeu. 3 autres personnes, plus à l'écart, participent à la scène. Complètement à gauche, un enfant, debout, vêtu d'une redingote bleue et d'une chemise blanche, est adossée à une pile de pierres rectangulaires. Celle-ci mesure peut-être 1,20 m de haut. Elle est surmontée d'un pot à eau au reflet cuivré. Le rendu du jeu de lumière sur la surface métallique témoigne de la virtuosité de l'artiste. 2 femmes sont assises. sur le dallage blanc, devant cet enfant, nous les voyons de profil. Ces trois personnages semblent captivés par la scène qui se déroule devant eux. Ils ne participent pas au jeu, ils sont spectateurs, comme nous. L'artiste a donc figuré ici le moment crucial de la partie. La jeune femme agenouillée, qui aura peut-être été désignée par tirage au sort, tend une main derrière son dos, après avoir caché la tête dans les genoux du meneur de jeu, notre vieil homme. Le membre du groupe derrière, qui s'est avancé et a tapé sa paume, s'est déjà esquivé et a rejoint le groupe. Est-ce bien lui qui a tapé sa main? Cet homme en gilet bleu, portant lui aussi une ceinture nouée sur le côté, cette fois dans les tons or. Il sourit et lève son index droit. « Est-ce moi que tu désignes ?» semble-t-il dire. « La jeune fille a-t-elle gagné ? Prendra-t-il sa place dans quelques instants ?» Le moment est comme suspendu. L'ensemble de tous ces personnages forme comme un arc de cercle et nous, spectateurs, fermons ce cercle. Nous sommes vraiment conviés à participer à ce moment. Nous sommes invités à cette partie de jeu pleine de vie, de rire, de bonne humeur, dans la pénombre et la fraîcheur de cette arcade couverte. À l'extrême droite du tableau, un seul personnage ne semble pas participer à cette scène. On le voit à peine. Il s'agit d'une femme assise sur la marche au pied de l'arcade, dans l'ombre. Elle joue d'un instrument à cordes à longs manches et porte un long voile blanc. Son attitude est douce. Évoquons maintenant le reste de la composition. Si je devais la qualifier d'un seul adjectif, je dirais architecturale. En effet, ces arcades de pierre qui soutiennent la galerie où nous sommes avec ce groupe de joueurs, ouvre sur un autre mur de pierre, de la pierre blanche, de la pierre éclairée par la lumière d'Italie, mais de la pierre dans toute sa massivité. Ce mur est lui aussi creusé d'arcades, mais celle-ci donne sur un autre mur. Elles sont donc sombres et ferment l'horizon. Pourtant, en y regardant bien, sur notre gauche, nous devinons un escalier, en pierre lui aussi. Empruntons-le. Nous nous faufilons à gauche de la toile, derrière la pile sur laquelle s'appuie l'enfant en redingote bleue. Nous passons derrière le vieil homme assis sur la chaise rouge. Au mur, une vierge à l'enfant reçoit la lumière d'une lanterne à facettes, en laiton et vert peut-être. Nous sommes toujours dans la pénombre. Nous franchissons l'arcade de gauche pour atteindre les marches en pierre. Tout à coup, nous sommes éblouis par la lumière. Les marches nous conduisent dans un espace situé au-dessus du mur de pierre que nous voyons tout à l'heure et qui bouchait en quelque sorte notre horizon. Où sommes-nous ? Dans un de ces merveilleux jardins italiens où végétation et sculpture se mêlent. Un parasol, cyprès au ton bleuté, ciel bleu mais nuageux, lumière chaude. Des touffes d'herbe poussent entre les pierres du mur. Ce jardin serait-il négligé? À l'abandon? En tout cas, sur la toile, il occupe très peu de place. Une bande très étroite, en partie supérieure des deux arcades de droite. Nous sommes donc dans un univers où l'architecture en pierre a la part belle. Elle occupe la moitié de l'espace du tableau. Lumière et couleurs chaudes dialoguent pour mettre en valeur le pittoresque de cette scène. Mimique, attention, observation, vivacité, intimité, complicité, taquinerie s'invitent dans cette scène de vie quotidienne. De son temps, l'artiste fut très admiré pour ses toiles. Preuve en est donnée par un commentaire de Charles-Paul Landon, peintre, graveur et historien de l'art français. Madame Hautebourg est le premier des artistes français qui se soit fait une belle réputation par la représentation naïve des scènes demeures populaires de l'Italie. Depuis, des talents plus mâles sont allés chercher des inspirations aux mêmes sources, et nous sommes accablés de Romains et de Napolitains sous toutes les formes. Madame Hautebourg, dont les souvenirs de l'Italie sont encore frais et pleins de vérité, semble néanmoins forcée de revenir à des scènes déjà traitées par elle. Mais je m'empresse de rendre justice à la vie qui règne dans toute la composition, à l'esprit qui anime chaque figure. Voici donc un éloge de Charles-Paul Landon à l'égard d'Hortense Hautebourg-Lescot. Cette toile est très représentative des scènes de genre italiennes qui ont fait la renommée de l'artiste au début de sa carrière, avant qu'elle ne devienne une portraitiste mondaine. Elle atteignit un haut degré de reconnaissance. Membre de l'Académie de Saint-Luc à Rome, peintre attitré de la Duchesse de Berry, elle reçut plusieurs commandes officielles pour le musée de Versailles. De 1809 à 1840, elle figure au Salon, où elle reçoit la médaille d'or en 1828. Cas des plus rares. Mondaine, elle tint également un salon très couru à Paris, dans le quartier de la Nouvelle-Athènes. Un salon où l'on rit, converse, joue, fait lecture. Un salon qui réunit, pour ne citer que, Talma, Scribe, Rossini, Horace Vernet, Granet, Picot, Drolling, David d'Angers. Un salon aussi célèbre que son atelier. Sur les notes de cette étude 98 en mi bémol mineur d'Hélène de Montgeroux, je souhaiterais dire un mot sur cette admirable musicienne. Les extraits entendus aujourd'hui furent interprétés par Jan Buckle dans le cadre d'un enregistrement réalisé par la Stapleford Granary. Hélène de Montgeroux était elle aussi extrêmement célèbre à cette époque. Madame de Staël la surnommait « mon impératrice ». Élisabeth Vigée-Lebrun disait d'elle qu'elle faisait parler les touches. Première femme à enseigner dans une classe d'hommes du Conservatoire de Paris dès sa fondation en 1795, elle fut pédagogue, interprète, improvisatrice, compositrice et auteure d'une méthode comprenant 972 exercices et 114 études. 700 pages d'une extrême créativité. Cette méthode fut exploitée et parfois même plagiée sans que son nom fût cité. Sa modernité de langage a sans doute influencé Mendelssohn, Schumann. Et pourtant, Hélène de Montgeroux est tombée dans l'oubli au XIXe siècle. Aujourd'hui, de nombreux travaux de recherche sont menés sur son œuvre. La pianiste et pianofortiste contemporaine Edna Stern la qualifie de visionnaire. Biographie, édition de partitions, concerts participent à sa réhabilitation. Ce combat concerne donc tous les arts. Les peintres réunis aujourd'hui au musée du Luxembourg, et notamment Élisabeth Vigée-Lebrun, Adélaïde Labille-Guillard, Marguerite Gérard, Hortense Hautebourg-Lescot, luttèrent pour le droit à la formation, pour leur reconnaissance sur le marché de l'art, dans cette époque tourmentée, tant du point de vue sociologique que politique. Elles furent reconnues et admirées par leurs pairs et leurs contemporains. Martine Lacasse, la commissaire de cette exposition, artiste femme, naissance d'un combat, nous donne donc à voir ce raz-de-marée féminin qui a été passé sous silence. Il s'agit d'écrire aujourd'hui ces chapitres manquants de l'histoire de l'art. Nous, spectateurs, avons aussi notre rôle à jouer. Participons à rendre visibles ces artistes renommés. Apprenons à les connaître, travaillons à les faire connaître. Détournons-nous des préjugés et des idées fallacieuses qui ont conduit à leur invisibilisation. Je conclurai sur ces mots de Martine Lacasse. Le meilleur hommage à accorder à ces femmes est d'enfin les considérer comme des peintres.